Et le journal est présenté par Alexandra Dubouchereau. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir à tous. Et à la une ce soir, l'émotion aux États-Unis, la polémique aussi après la double fusillade au Texas et dans l'Ohio, 29 morts au total. Certains relancent le débat sur les armes à feu, d'autres pointent la rhétorique violente de Donald Trump. À El Paso, point de passage de l'émigration latino-américaine vers les États-Unis, le tireur aurait volontairement visé les Mexicains. Les dernières précisions de notre correspondant dans le pays, Loïc Loury. Et puis on entendra le politologue américain Dick Howard. Pour lui, aucun doute, c'est un crime raciste attisé par les propos du président américain. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur l'exploit Zapata ce matin en France. Il a réussi à traverser la Manche sur sa planche volante. Un vrai défi personnel, mais ce n'est pas forcément une révolution, vous l'entendrez. L'été rime souvent malheureusement avec noyade et quand les vacanciers oublient d'être vigilants, les sauveteurs en mer veillent sur nous. Reportage sur les plages de Saint-Nazaire dans un instant. À suivre encore la solution de l'INRA pour remettre de la biodiversité dans l'agriculture et la chasse aux icebergs. Et oui, ça existe et ça peut rapporter très gros, on en parle dans un instant. Les sports ce soir dans Intersport avec Nicolas Fillon, on reviendra sur le dernier match du FC Chômage, un club de footballeurs professionnels mais qui n'ont pas de club. Le dernier match amical aussi pour l'OM avant la reprise de la Ligue 1. Du basket au programme encore avec la préparation des Bleus avant le Mondial. Tout ça, ça sera dans 15 minutes juste après vos conditions de circulation. Et la météo, bien sûr, ça se dégrade au nord, mais toujours un ciel bleu près de la Méditerranée.
France Inter.
Le choc et la colère aux États-Unis après ces deux fusillades dans l'espace de 13 heures. Une double tuerie de masse qui a fait une trentaine de morts. La première hier soir dans un centre commercial d'El Paso au Texas, à la frontière avec le Mexique. 20 morts et 26 blessés. La seconde en pleine nuit à 1500 km de là vers l'est au cœur de Dayton dans l'Ohio. 9 morts plus le tireur et 27 blessés. Que Dieu bénisse les habitants d'El Paso, que Dieu bénisse les habitants de Dayton, a tweeté Donald Trump qui vient d'annoncer aussi que les drapeaux américains étaient en berne en mémoire des victimes. Mais la polémique est déjà relancée dans le pays. Les précisions sur place de Loïc Loury.
251 fusillades d'ampleur cette année aux États-Unis. El Paso et Dayton rejoignent Sandy Hook, Parkland et les autres, ces villes endeuillées par la violence des armes. Dans l'Ohio, le tireur a ouvert le feu après 1h du matin. Il visait un quartier très animé. La police aura mis moins d'une minute à abattre l'assaillant, mais celui-ci était lourdement armé et cette poignée de secondes aura été fatale pour 9 personnes. À El Paso, la même foule, mais cette fois dans un supermarché populaire. À bilan, 20 morts pour cette tuerie la plus sanglante depuis 2017. Comme toujours après le choc, le débat sur les armes refait déjà surface, mais avec quel résultat? Plusieurs démocrates par ailleurs dénoncent aussi la rhétorique violente, raciste de Donald Trump comme un terreau favorable à certains de ces massacres. Le tueur d'El Paso, en effet, serait l'auteur d'un manifeste publié sur Internet qui évoque une invasion hispanique du Texas, le type d'expression employée régulièrement par le président américain. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et parmi les premiers à réagir ce matin, Beto O'Rourke, candidat à la primaire démocrate et lui-même originaire d'El Paso. Il accuse le président américain d'attiser le racisme en traitant les Mexicains de violeurs et de criminels. En tout cas, pour les enquêteurs, il ne fait presque aucun doute que cette fusillade d'hier soir est un crime de haine, un crime raciste. C'est aussi l'avis du politologue et enseignant américain Dick Howard.
Quand on a vu que le type a laissé un manifeste et que ce manifeste faisait allusion à Christchurch, c'était évidemment quelque chose qui avait plutôt à voir avec le pouvoir blanc. Maintenant, El Paso, c'est une ville frontalière. C'est une ville où, justement, le samedi, il y a beaucoup de Mexicains qui traversent la frontière, qui viennent au Walmart. Les prix sont peut-être meilleurs. On est à 2 semaines de la rentrée des classes. Donc, c'est un lieu parfait pour ce genre de massacre. Ajoutons à cela qu'il y a sur cette frontière mexicano-américaine, il y a maintenant plus de 4000 troupes de l'armée régulière appelées par Trump pour condition d'état d'urgence, dit-il, parce qu'on lui a interdit les fonds pour construire son mur. Celui qui est devenu président, quand il annonçait sa candidature en 2015 et sa déclaration fait état, par exemple, du fait qu'on est envahi par des Mexicains, des violeurs, des tueurs, des criminels.
Le politologue Dick Howard au téléphone depuis New York. Il est l'auteur notamment des Ombres de l'Amérique chez François Bourin. Et comme tout va très vite aux États-Unis, les autorités du Texas annoncent ce soir qu'elles vont requérir requérir la peine de mort à l'encontre du jeune tireur d'El Paso qui semble coopérer avec les enquêteurs. Le procureur précise aussi que c'est un acte désormais considéré comme un acte de terrorisme interne. Et ce dimanche, Donald Trump a un autre dossier brûlant sur la table. C'est celui des tensions dans le Golfe avec l'Iran notamment. Tensions ravivées depuis ce matin, depuis que Téhéran a annoncé avoir saisi un pétrolier étranger dans cette région stratégique. C'est la troisième fois en moins d'un mois. En studio avec nous, Nadine Epstein. Bonsoir.
Bonsoir.
Du service international de France Inter, Nadine. L'Iran accuse ce navire de faire de la contrebande.
Et les Iraniens n'ont pas été très bavards sur cette saisie de navire. Ils ont annoncé l'arrestation de 7 marins, sans préciser leur nationalité. Le tanker, selon la télévision publique de Téhéran, transportait 700 000 litres de pétrole de contrebande. Il faisait route vers des États arabes quand il a été stoppé autour de l'île de Farsi, dans le nord du Golfe. Ces dernières semaines, vous l'avez dit, les forces navales des gardiens de la Révolution ont arraisonné 3 bâtiments étrangers. Chaque incident fait craindre un embrasement général. Déjà en mai, puis en juin, les mystérieuses attaques et sabotages commis contre des pétroliers dans le Golfe et la destruction d'un drone américain auraient pu mener à un énorme désastre, Donald Trump ayant annulé à la dernière minute des frappes de représailles contre l'Iran. Aujourd'hui, c'est un général iranien qui tempère. La probabilité d'un conflit militaire dans le Golfe est de moins en moins élevée. Pourtant, pour les hydrocarbures, la région du Golfe du détroit d'Ormuz est capitale. Le cinquième du pétrole mondial et le tiers du gaz naturel liquéfié transite par ce goulon d'étranglement large d'à peine 40 km qui relie le Golfe arabo-persique à l'océan Indien.
Merci Nadine Epstein. Washington tente de mettre sur pied une coalition internationale dans le Golfe pour protéger les navires marchands. Ce sera a priori sans les Européens qui cherchent à préserver leurs relations avec Téhéran et l'accord sur le nucléaire signé en 2015. Des heurts ont éclaté à Hong Kong tout à l'heure lors d'une nouvelle manifestation pro-démocratie. La police anti-émeute a dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogène dans un quartier cossu de l'île principale. Pékin a aussi haussé le ton tout à l'heure en promettant de ne pas rester les bras croisés face aux forces abjectes sapant l'unité nationale. Il était le bras droit de Pol Pot au Cambodge, l'idéologue des Khmers Rouges aussi. Nguyen Chea est mort aujourd'hui à 93 ans. Arrêté en 2007, il avait été condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité et génocide. Trains évacués, téléphones coupés, chaos sur les routes, une gigantesque panne d'électricité a touché une douzaine d'heures tout à l'heure. Les habitants de Jakarta et de ses alentours en Indonésie, on parle de dizaines de millions de personnes concernées. Le courant a été rétabli dans la plupart des quartiers ce soir. En cause, des défaillances en série sur des circuits de transmission sur une ligne à haute tension. C'est l'homme du jour en France, Frankie Zapata, l'inventeur fou ou l'homme volant, vous avez le choix. Il a réussi ce matin son pari, traverser la Manche à bord de son flyboard, une planche de sa conception munie de 5 mini turboréacteurs. Après son échec le 25 juillet, cette seconde tentative a donc été la bonne. Il a mis 22 minutes pour rallier la plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais à Sainte-Margaret's Bay, près de Douvres en Angleterre. Soutenu par des sponsors mais aussi par l'armée très intéressée par ce projet, Frankie Zapata est désormais célèbre bien au-delà de l'Hexagone. Mais à quoi son invention peut-elle servir? Et peut-on vraiment parler d'un exploit historique? On a posé la question à Gérard Felzer, spécialiste transport.
Ça a déjà été fait, et ça a été fait il y a 53 ans par l'armée américaine. Ils appelaient ça l'homme fusée, avec un réacteur dans le dos. Et d'ailleurs, un an plus tard, il y a Bill Sweater qui a inauguré les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84 avec cette opération. Donc, c'est pas nouveau. Sauf que ça fait des progrès, ce sont ces petits réacteurs qui sont extrêmement performants, l'équivalent de 150 chevaux par mini-réacteur, pas facile à manipuler, c'est là où il a un certain savoir-faire. Il a su prendre sur étagère ce qui existait, il l'a amélioré et il a su prouver qu'on pouvait le faire. Mais c'est pas une révolution.
Est-ce que c'est le futur?
Le futur du transport individuel, il sera quelque chose qui sera beaucoup plus simple. D'abord, ça sera automatisé. Vous pouvez pas donner cet engin à n'importe qui, c'est pas possible. Ça peut servir pour les militaires, ça peut servir pour des missions humanitaires, mais ça va se limiter à ça. Je vois pas aujourd'hui commercialiser ça dans les grandes surfaces et partir avec, même pas en rêve.
Le consultant en aéronautique et en transport, Gérard Felzer. Une nouvelle marche pour Steve Maya Canisso au lendemain des incidents à Nantes. Près de 500 personnes ont défilé dans le calme cet après-midi à Rouen. Des ballons blancs ont été accrochés sur le pont Jeanne d'Arc et des roses blanches ont été jetées dans la Seine. Une minute de silence a aussi été observée. Mamoudou Barry sera inhumé demain dans son village natal en Guinée. Cet enseignant-chercheur est mort il y a 2 semaines à Rouen après une agression qualifiée de raciste par le parquet. Aujourd'hui, ses proches et plusieurs responsables politiques lui ont rendu hommage lors d'une cérémonie dans son ancienne université à Conakry, la capitale. C'est le premier week-end des vacances pour beaucoup d'entre vous. Profitez-en, mais on ne le dira jamais assez. Attention, si vous vous baignez, beaucoup de vacanciers continuent à ignorer les recommandations. Et ça se ressent sur le terrain. Les sauveteurs sont de plus en plus sollicités. C'est le cas à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, où s'est rendu Paul Sertillange pour France Inter. Ici, rien qu'au mois de juillet, 17 personnes ont été sauvées de la noyade contre 15 l'an dernier sur tout l'été.
C'est l'heure de l'entraînement sur la plage des Jaunets.
Elle a du vernis, donc je prends l'oreille.
Vous me parlez, mais j'ai mal à la tête. Là.
Les sauveteurs simulent un malaise.
Quoi, là ?
Tension au niveau de l'oreille.
Alizé est la chef du poste de secours.
C'était pas mal géré. Après, bien sûr, il y a toujours des choses à régler en termes d'efficacité.
Les sauveteurs veillent, certes, mais attention, cela ne doit pas empêcher les vacanciers d'être eux-mêmes vigilants, notamment les parents.
Souvent, on nous dit « bon, bah, je vous laisse mon enfant, là, juste devant ». Bah non, en fait, nous on jette un coup d'œil dessus, certes, mais on n'est pas là pour le surveiller, il peut pas nous suivre partout où on va, c'est pas possible.
Le problème principal, c'est les smartphones, selon Alain Rondineau, le responsable du littoral et des plages de Saint-Nazaire.
Les parents, ils sont sur leur portable, et les enfants sont au bord de l'eau, et ben, ils se font happer par une vague, ils jouent les pieds dans l'eau. La surveillance, elle n'est pas au rendez-vous. Pour nous, elle doit être double. La leur, complétée par la nôtre, et on ne fait pas de la surveillance individualisée.
Heureusement, la plupart des parents comprennent.
Je préfère le surveiller, au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de souci.
Alors moi je suis très 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 prudente, avec moi il n'y a aucun risque.
Ils ne sont pas là pour garder nos gamins, ils sont là pour sauver les gens qui en ont besoin, et c'est déjà bien.
En 2018 en France, plus d'un tiers des noyés avaient moins de 13 ans.
Un reportage France Bleu Loire-Océan de Paul Sertillange pour France Inter. Les experts du GIEC sur le climat sont déjà réunis depuis 3 jours à Genève en Suisse. Jeudi, ils devraient publier leur nouveau rapport. Un rapport qui porte cette année sur les conséquences du dérèglement climatique sur les terres et dans lequel ils feront le lien entre changement climatique et utilisation des terres, comme par exemple la question de la sécurité alimentaire en lien avec les méthodes agricoles. En France, l'INRA et le CNRS ont aussi planché sur cette question. Cette semaine, ils ont publié une étude dans ce sens. Véronique Julia l'a épluchée.
On le sait, la destruction des bosquets, des haies ou des prairies au profit d'immenses champs agricoles a considérablement réduit la biodiversité. Remettre des haies ou des bosquets a pu sembler une solution pour corriger le tir, mais les chercheurs prouvent ici qu'il y en a d'autres. Ils ont étudié plus de 1000 parcelles cultivées dans 8 régions d'Europe et du Canada, et ils sont formels. On peut, disent-ils, remettre de la biodiversité sans toucher aux surfaces agricoles existantes, donc sans nuire à la production. Il suffit de varier, de mélanger davantage les cultures, de réduire les parcelles pour les rendre plus hétérogènes. Rapprocher le blé du colza, rajouter aussi du tournesol, les abeilles s'en porteront beaucoup mieux, Clélia Siramier, chercheuse à l'INRA.
Les abeilles qui vont être dans le champ de colza, elles vont pouvoir plus facilement accéder à un champ de blé qui est juste à côté. Et ça, en fait, ça va être très bénéfique parce qu'il y a un grand nombre d'espèces dans les espaces agricoles qui sont dépendantes de plusieurs types de ressources qu'ils ne vont pas forcément réussir à trouver que dans un champ de colza ou que dans un champ de blé. Et le fait d'avoir les deux à proximité va leur permettre de mieux se développer dans les espaces agricoles.
Bref, éviter au maximum la monoculture au profit d'une mosaïque de cultures moins espacées. La chercheuse cite volontiers les coteaux de Gascogne au sud de Toulouse. Polyculture, élevage, petites parcelles, on y trouve plus de variétés d'oiseaux, de papillons et d'abeilles.
Véronique Julia, et dans ce contexte de réchauffement climatique, zoom ce soir sur une occupation très lucrative et qui suscite un véritable engouement à Terre-Neuve, à l'est du Canada. Il s'agit des chasseurs d'icebergs. Le but est de récupérer l'eau de ces masses gelées pour la revendre à prix d'or, car cette eau est, paraît-il, très recherchée. Mais Juliette G, tout ça n'est pas franchement très écolo.
Plusieurs coups de fusil pour décrocher un morceau de glace, puis un coup de pelle mécanique. Avec cette technique, Edward Keane, un Canadien âgé de 60 ans, broie 1 tonne de glace par pelletée. Et pas n'importe quelle glace, c'est l'une des plus pures au monde, puisqu'elle a gelé bien avant la révolution industrielle du XXe siècle. Pour autant, est-ce bon pour l'environnement ? Pas si évident si l'on en croit Gaël Durand, glaciologue.
Écologiquement, c'est une aberration de transporter de l'eau sur des milliers et des milliers de kilomètres. C'est juste que c'est une activité supplémentaire d'aller transporter de la glace depuis l'épaule jusqu'à son consommateur. que ça nécessite de dépenser de l'énergie. 800 000 litres d'eau, c'est très faible par rapport à la quantité d'icebergs qui est produite chaque année autour du Groenland.
Peu de choses par rapport au nombre d'icebergs peut-être, mais suffisamment pour gagner beaucoup d'argent. Une bouteille d'eau est vendue 11 euros et le prix peut monter à 60 euros quand cette même eau est mélangée à de la bière ou de la vodka.
Et du coup, on a tout de suite moins envie d'en boire. En tout cas, la rédaction numérique vous a concocté un dossier sur ces chasseurs d'iceberg et c'est à lire sur franceinter.fr. Vos conditions de circulation ce soir, ça sent la fin du grand chassé croisé de l'été. Kevin Dufraîche, vous êtes au PC Mobilité de Radio France.
Oui, après la journée noire d'hier, Bison Futé voyait orange aujourd'hui dans le sens des départs et il ne reste à cette heure que quelques rares difficultés, une quinzaine de kilomètres de bouchons par exemple entre Valence et Montélimar dans la vallée du Rhône sur l'autoroute A7 en direction de la Provence. À noter aussi ces quelques difficultés sur l'A10 vers l'Atlantique, notamment ces 25 kilomètres de bouchons en arrivant sur la rocade de Bordeaux par le nord et puis sur l'A10 toujours, mais dans l'autre sens, juste avant Paris, il y a aussi un petit peu de monde au péage de Saint-Arnoult en Yvelines. Le chassé croisé est donc terminé, vous l'avez compris, si vous avez pu repousser votre départ en vacances, vous avez bien fait, puisque demain, c'est vert sur les routes d'après Bison Futé.
Merci Kevin. Après la route, la météo, ça se dégrade un peu par le nord. Les prévisions de Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Petit à petit, l'influence d'une vaste dépression centrée vers les îles britanniques va se faire sentir. Demain matin, nous allons retrouver une nouvelle perturbation nuageuse s'étirant des Pays de Loire à la Basse-Normandie. Les pluies associées seront faibles. Elle va gagner en cours d'après-midi la Haute-Normandie, la région parisienne puis le Nord-Pas-de-Calais. Dans les autres régions, vous profiterez d'un début de semaine assez bien ensoleillé. L'ensoleillement sera même généreux autour de la Méditerranée ainsi qu'en Corse. À noter tout de même la présence d'entrées maritimes en matinée vers la Aquitaine se dissipant l'après-midi. Côté température, les minimales au lever du jour seront douces et généralement comprises entre 14 et 19 degrés. Comptez jusqu'à 23 degrés en allant vers la Méditerranée. Les maximales seront en sensible baisse. Prévoyez 21 degrés à Cherbourg, 26 à Lille, 29 à Paris comme à Bordeaux, 30 à Nancy, 32 à Toulouse, 33 à Lyon, comptez 34 degrés à Nîmes et 35 à Montélimar.
France Inter, il est 19h16. L'actualité sportive, c'est Intersport, représenté ce soir par Nicolas Fillon. Et dans les titres de l'actu sport ce soir, Nicolas, du ballon rond avec un zoom sur la Chine.
Le nouvel Eldorado du foot français, le foot toujours côté face, avec les joueurs chômeurs qui tentent désespérément de retrouver un club. On parlera également basket. Et la préparation au mondial de l'équipe de France et puis cyclisme avec le retour de Julien Alaphilippe sur les routes françaises.
France Inter. 8000 km séparent Paris et Pékin et pourtant c'est bien la Chine qui est devenue une nouvelle place forte du football français.
Ouais, le Paris Saint-Germain qui est rentré ce matin d'une tournée de 11 jours là-bas, pré-saison conclue par un nouveau trophée des champions remporté hier contre Rennes à Shenzhen, 2-1. L'épreuve était organisée pour la troisième fois en Chine, pays jugé prioritaire pour le développement du foot français, Nicolas Olivier.
Depuis 5 ans, le foot français est parti à la conquête de l'Empire du Milieu, une opération séduction dont le trophée des champions est l'illustration la plus visible. Comme l'an dernier, le PSG a choisi d'organiser ici sa tournée de pré-saison. Pendant 10 jours, le club a alterné matchs amicaux et opérations marketing ou caritatives. Sébastien Vazels, directeur du développement du Paris Saint-Germain en Asie.
On est ravis parce qu'on a eu un très grand succès. On a doublé notre base de fans entre l'an passé et cette année. On a signé 3 partenariats sponsoring avec des marques asiatiques. C'est vraiment un développement intéressant. L'objectif de ces tournées, c'est de continuer à faire grandir la marque Paris Saint-Germain à l'international. L'Asie est un territoire déterminant pour le développement du club.
Un travail de longue haleine qui commence à payer. La popularité du club grandit et les ventes de maillots explosent. Une croissance à 3 chiffres selon le PSG. Plus globalement, des investisseurs chinois commencent aussi à s'intéresser au club de l'Hexagone, car la Ligue 1 est devenue le 3e championnat le plus diffusé en Chine. La dynamique est positive, se félicite le champion du monde 98, Youri Djorkaeff, ambassadeur pour la Ligue de football professionnel.
On voit qu'il y a plus de 100 millions de téléspectateurs qui regardent le football en Chine et suivent le championnat français, c'est des signes qui sont forts et je crois que le travail de la Ligue est justement de continuer à exploiter ces pistes-là.
Pour la Ligue, l'enjeu principal, c'est d'augmenter les droits télévisés de la Ligue 1 à l'international. Ils ne pèsent aujourd'hui que 80 millions d'euros par an, 7 fois moins que la première Ligue anglaise. Pour plaire aux diffuseurs chinois, un match se jouera dès la saison prochaine, le dimanche midi, rappelle Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP.
À partir de 2020, il y aura systématiquement, lors de chaque journée, un match à
13h, 19h ou 20h en Chine, pour créer une case récurrente, une habitude chaque semaine d'avoir du football sur CCTV en Chine. Donc avec un match de Ligue 1 à 1h de prime time en Chine.
Le trophée des champions, vitrine du foot français à l'étranger, reviendra en Chine d'ici 2022. Mais l'an prochain, c'est un autre marché prioritaire qui a été choisi pour organiser l'épreuve, les États-Unis.
Les États-Unis, voilà un pays où l'Olympique de Marseille a également effectué sa tournée de pré-saison. L'OM qui dispute son dernier match amical ce soir au Vélodrome face à Naples. 40 000 spectateurs sont attendus. Et parmi eux, l'attaquant argentin Dario Benedetto qui doit passer sa visite médicale demain pour signer avec la formation marseillaise.
Le mercato foot toujours aussi actif, mais pour certains joueurs, c'est aussi une période de galère, notamment pour ceux qui sont au chômage.
Ouais, touchés par les blessures, les embrouilles avec un agent ou un directeur sportif, ils sont sans club. Mais ces chômeurs du football sont regroupés dans une équipe mise en place par l'UNFP, le syndicat des joueurs. L'UNFPFC, c'est son nom, disputé cet après-midi. Un match contre Strasbourg en Alsace, l'occasion pour ces joueurs sans club de se montrer pour se faire recruter. Le chômage, un sujet encore tabou dans le monde du ballon rond, Bruno Blanza.
Oui, une période pas forcément simple à gérer quand l'été et le marché des transferts défilent comme un TGV. Alexandre Vincent et son contrat à 25 ans.
On essaye de pas y penser, c'est un petit poison qui trotte dans la tête. Si jamais on a ça en tête, on n'avance pas. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Alors c'est pas facile tous les jours. C'est pas forcément les joueurs les moins bons qui se retrouvent à ce stage. Donc forcément dans les têtes ça trotte, il y a plein de questions qui nous viennent à l'esprit, mais ça nous permet de continuer à jouer au foot.
L'ancien offensif auxerrois ou lavallois et ses équipiers estivaux s'entraînent avec l'UNFP comme s'ils étaient dans un vrai club. C'est une chance. Ils ont même l'occasion de se montrer lors de matchs amicaux face à des cylindrés de Ligue 1 et Ligue 2.
Quand on sait qu'un footballeur a, on va dire, deux vies, hein, la carrière et l'après-carrière, on joue plus ou moins notre petite vie de footballeur sur ces moments-là, quoi.
Si physiquement ces joueurs sont au top, c'est dans la tête qu'il faut digérer ce statut qu'ils espèrent passager. L'ancien défenseur de la JOCR ou Lorient, David Recorbet, est l'un des entraîneurs de l'UNFPFC.
En plus, le mot chômeur, dans le monde du football, on est presque à se demander si ça existe. Quand on dit qu'on est footballeur chômeur, ben les gens, en fait, ils comprennent pas, ils savent pas. Les joueurs, je sens que c'est difficile pour eux de parler et de dire « je suis chômeur ». Dire « je suis en recherche de club », je suis en attente, c'est peut-être plus facile, mais le mot chômeur, c'est vrai qu'ils ont aussi leur rendez-vous pour l'emploi. Ils sont comme tout le monde, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour eux. Ouais.
Chaque année, l'UNFP accueille une trentaine de joueurs pour son stage estival. 70 à 80% retrouvent un contrat dans les mois qui suivent.
Et on l'a bien compris dans le reportage de Bruno Blanza, tout est mis en place par l'UNFP pour aider ces joueurs de foot chômeurs. Et parmi eux, il y a Cédric Mensa, ancien gardien de but de Laval, formé à Bordeaux et passé par Marseille. Il est au micro d'Aurélien Incart.
Quand on entend footballeur professionnel, tout de suite on pense aux grandes stars, au Neymar, au Mbappé, enfin voilà, aux stars que l'on voit dans la presse people ou à la télé en Ligue des Champions. Mais après, le métier de footballeur professionnel comprend beaucoup de joueurs et beaucoup de différences. Donc après, chaque poste, chaque division a sa spécificité, mais il englobe le même métier.
Ce qui est un peu nouveau dans l'UNFPFC, c'est que maintenant, il y a des joueurs qui sont aussi jeunes, voire parfois très jeunes. C'était pas trop le cas les années précédentes.
Oui, de ce qu'on nous en dit, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, c'était plutôt des joueurs qui étaient en fin de carrière, qui avaient la trentaine passée et qui se retrouvaient là, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueurs jeunes qui rejoignent ce stage-là. Et donc, d'un côté, je me dis que c'est bien que ce soit ouvert, parce qu'au moins, ça permet d'exclure personne. Donc, parce que je rappelle que c'est une volonté des joueurs à la base d'aller dans ce stage-là. Mmh. Et c'est bien que ça soit ouvert à toutes les tranches d'âge.
Et à noter que les footballeurs chômeurs de l'UNFP ont perdu 3-2 face à Strasbourg cet après-midi.
Et on en a parlé en début de journal, la préparation estivale s'est terminée pour les clubs de foot. Mais pour l'équipe de France de basket, elle se poursuit. Le mondial en Chine, c'est à la fin du mois.
Ouais, les Bleus viennent de passer une semaine à Pau où depuis 10 ans, ils se perfectionnent avant leurs compétitions internationales. Ce mondial, c'est le premier grand tournoi sans Tony Parker parti à la retraite. Ce sera également sans Boris Diaw et Florent Pietrus, ses fidèles lieutenants. Mais cela n'empêche pas les stars françaises de la NBA de répondre présent pour cette Coupe du Monde, Damien Gauthieuseau.
Sur les 15 joueurs du groupe France en préparation, 5 jouaient cette saison en NBA. Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, Frank Ntilikina et Vincent Poirier. S'ils partent tous à la Coupe du Monde, jamais la France n'aura compté dans cette compétition autant de représentants de la meilleure ligue du monde. Même quand on joue en NBA, l'équipe de France, c'est à part, assure du haut de ses 2m15 le pivot des Utah Jazz et des Bleus Rudy Gobert.
C'est comme un bol d'air frais. L'équipe de France, ça reste, pour moi, c'est aussi important que la carrière NBA, même si bien sûr, on sait très bien que c'est la carrière NBA qui me fait vivre. L'équipe de France, c'est ce que j'aime et pouvoir défendre les couleurs de mon pays et surtout le faire avec un groupe que j'apprécie, il n'y a pas d'hésitation.
Le porte-drapeau de ces joueurs évoluant en Amérique du Nord, c'est Nicolas Batum, l'ailier des Charlotte Hornets. Il est l'un des cadres des Bleus, le seul joueur à plus de 100 sélections avec le meneur Nando de Colo. Le relais aussi entre cette génération NBA et celle des désormais ex Tony Parker, Boris Dio et compagnie.
C'est vrai que j'ai eu la chance, moi personnellement, de l'avoir côtoyé pendant plusieurs campagnes. Ils ont quand même laissé une trace indélébile de victoire, chose qui est quasiment inégalée dans l'histoire de l'équipe de France. Il laisse ça. Voilà ce qu'il laisse. Il y a une constance de haut niveau sur quasiment la dernière décennie. Et maintenant, c'est à nous, ces personnes qui ont côtoyé ce groupe-là, avec les jeunes qui arrivent justement dans le groupe, de continuer justement ce qui a été commencé depuis maintenant une dizaine d'années.
Quoi qu'il en soit, l'apport de ces joueurs estampillés NBA n'est pas un gage de réussite. Le sélectionneur Vincent Collet le sait bien, il faudra réussir à créer une osmose dans ce groupe.
C'est toujours satisfaisant et excitant. Des armes supplémentaires qui forcément, a priori, font que l'équipe va être meilleure, clairement. Mais après, la problématique reste la même. Il faut qu'on apprenne à jouer ensemble, à partager. Et c'est pas si simple que ça, et partager même dans les contextes difficiles. C'est pas simplement parce que Gobert et Batum vont être là que les choses vont se faire naturellement. Non, non, pour défendre, il faut défendre à 5. Hein.
Les Bleus vont avoir 8 matchs à disputer pour se roder jusqu'au Mondial. Première rencontre de préparation demain soir au Palais des Sports de Pau face à la Turquie.
Et ce match de prépa se disputera à 20h30 lundi soir donc. L'équipe de France de basket opposée à l'Allemagne pour son premier match du Mondial en Chine. Ce sera le 1er septembre.
En cyclisme, c'est le nouveau chouchou. Julien Alaphilippe a pu s'apercevoir de son immense et récente popularité au critérium de la ronde d'Aix-en-Provence qui vient de débuter.
Oui, le 5e du Tour de France et maillot jaune pendant 14 jours participe à cette course qu'il a déjà remportée l'an dernier. La star de la grande boucle a fait rêver les Français cet été et ça continue. 2000 personnes sont venues acclamer Julien Alaphilippe pour ce critérium de la ronde. Mais comment le coureur gère-t-il ce nouvel engouement? Sa réponse au micro de Samuel Monod.
C'est sûr que c'est un petit peu plus qu'avant, hein, au niveau des sollicitations, au niveau du public. Quand j'ai pris l'avion pour aller à Saint-Sébastien, tout le monde me reconnaissait dans l'aéroport. Ça, c'était une première pour moi parce que j'ai l'habitude de répondre aux sollicitations et aux fans. Mais là, je suis arrivé à l'aéroport, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Et ça, c'est spécial. Je me suis rendu compte que le tour a vraiment marqué les gens. Donc voilà, il faut juste rester tranquille, rester soi-même. Et puis penser à soi surtout parce que il reste encore des courses jusqu'à la fin de saison, donc tout ne s'arrête pas au tour, et enfin pour moi en tout cas, et j'essaie de faire plaisir aux gens et de penser aussi un peu à moi.
Et toujours en cyclisme, la Française Pauline Ferrand-Prévot a remporté l'étape de Coupe du Monde de cross-country. C'était cet après-midi à Val di Sole en Italie. C'est sa première victoire sur le circuit depuis 2015.
L'équitation à présent, la sélection des cavaliers de saut d'obstacle pour le championnat d'Europe a été dévoilée au jumping de Dinard, c'était ce week-end.
Et les tricolores auront fort à faire fin août à Rotterdam aux Pays-Bas. Ils doivent avant tout qualifier la France pour les JO de Tokyo. Les Français sont médaillés d'or en titre par équipe, c'était au Brésil en 2016 et ils pourront compter sur l'expérience du numéro 1 français Kevin Staut en selle sur une nouvelle recrue, Calévo 2.
Calévo, c'est un cheval formidable. Il a montré vraiment un caractère très volontaire. C'est un cheval qui est très appliqué. Il est adorable. C'est le chouchou des écuries. Il a à la fois un super look et c'est un très beau cheval. Et en plus, il est très proche de l'homme. Donc c'est vrai que ça, on est assez attendri par son caractère. Et puis bon, ce qui est le plus important, c'est que c'est un très bon cheval qui a énormément de potentiel, qui a beaucoup de force, qui a besoin encore d'un petit peu d'expérience peut-être pour aller chercher par exemple un titre individuel, mais j'en suis sûr, il peut vraiment aider et collaborer pour essayer d'aller chercher un résultat par équipe. C'est vrai qu'il y a une pression supplémentaire avec cette qualification, parce que là on parle pas uniquement du résultat propre au championnat d'Europe, mais il y a forcément en ligne de mire la qualification pour les Jeux Olympiques. Donc il faut vraiment qu'on reste très très concentré. est très appliqué pendant ces championnats pour aller décrocher cette qualification. Au-delà d'un résultat sur un podium ou une médaille, même d'un résultat individuel des cavaliers, la première chose, c'est d'être focalisé sur la qualification.
Et les championnats d'Europe de saut d'obstacle auront lieu à Rotterdam du 19 au 25 août.
En bref, un dimanche de sport mécanique aussi.
Avec la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Formule 1 de Hongrie cet après-midi, le Britannique de chez Mercedes est toujours solide leader du classement des pilotes. Et puis en MotoGP, 50e victoire en carrière pour l'Espagnol Marc Marquez en tête au championnat du monde.